France Culture.
Il est 18h. Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison en Algérie, l'écrivain doit s'en remettre à une éventuelle grâce du président algérien Tebboune pour retrouver la liberté. Emmanuel Macron compte justement sur le bon sens et l'humanité des autorités algériennes, dossier dans ce journal avec Christian Chesneau. La France annonce la création d'une force de réassurance pour l'Ukraine, des soldats européens qui seraient déployés sur le territoire ukrainien après un éventuel cessez-le-feu. Nous ferons le point avec Virginie Pironon. 18 mois de prison avec sursis requis contre Gérard Depardieu, jugé pour agression sexuelle. Le parquet demande aussi l'inscription de l'acteur au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Alexis Kohler quitte l'Élysée. Le secrétaire général de la présidence partira à la mi-avril, sans doute pour le privé. C'est le bras droit historique d'Emmanuel Macron qui s'en va, nous dira Rosalie Lafarge. Il est au cœur de la crise diplomatique franco-algérienne, sans doute la plus aiguë depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Boualem Sansal a donc été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Dar El Beida, près d'Alger. Incarcéré depuis la mi-novembre, l'écrivain franco-algérien paye une interview dans le média Frontières, classé à l'extrême droite. Il avait repris à son compte la position du Maroc, selon laquelle le territoire marocain aurait été amputé au profit de l'Algérie sous la colonisation française. Boualem Sansal est âgé de 80 ans, il souffre d'un cancer et il ne peut plus espérer aujourd'hui qu'une grâce du président algérien Tebboune. Christian Chesneau.
Boualem Sansal a 10 jours pour se pourvoir en appel et contester la peine de 5 ans de prison ferme prononcée aujourd'hui contre lui. Depuis son incarcération à la mi-novembre, l'écrivain a toujours nié toute intention de porter atteinte à son pays, expliquant avoir exercé sa liberté d'expression. Compte tenu de la dimension politique de son cas, Maître Mohamed Baghdadi, bâtonnier d'Alger, joint par téléphone, estime qu'une grâce du président Tebboune n'est pas à exclure.
Ce qui va se passer, je ne saurais vous le dire. Ça, c'est une décision qui appartient donc au seul président. Et compte tenu de la spécificité de ce dossier, bien sûr, rien n'est à écarter. C'est un dossier quand même un peu particulier et je pense qu'une mesure de clémence de la part du président de la République n'est pas écartée, pourquoi pas.
Le calendrier est en plus favorable, avec l'Aïd el-Fitr lundi prochain qui marque la fin du Ramadan, il est de tradition que le président gracie des prisonniers à cette occasion. Évoquant le cancer de Boualem Sansal, aujourd'hui âgé de 80 ans, Emmanuel Macron a appelé les autorités algériennes à faire preuve de bon sens et d'humanité pour qu'elles libèrent l'écrivain franco-algérien et il s'est dit confiant dans la clairvoyance de son homologue Abdelmadjid Tebboune.
Des propos d'Emmanuel Macron qui semblent faire allusion effectivement à une éventuelle grâce du président Tebboune et c'est aussi l'espoir du comité de soutien à Boualem Sansal en France, un comité fondé par Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire.
La balle est dans le camp du président Tebboune qui, en Algérie, a les moyens de sortir de cette situation dans laquelle se sont mises elles-mêmes les autorités algériennes en incarcérant un écrivain âgé et malade. Nous, ce qu'on attend, c'est-à-dire, encore une fois, c'est une solution politique et la seule solution politique, c'est une grâce. On le sait très bien. Le président algérien a les moyens de gracier Boualem Sansal, mais surtout, ce que l'on souhaite, c'est que sa libération soit la plus rapide possible et immédiate et sans condition. Parce que rien ne serait pire que cette libération soit assortie de conditions, et notamment d'une condition qui parfois existe en Algérie, c'est ce qu'on appelle l'ISTN, c'est-à-dire l'interdiction de sortir du territoire national. Nous, on veut que Boualem Sansal puisse retrouver la totalité de sa liberté de mouvement.
Vous y croyez à cette grâce présidentielle ?
On veut y croire, mais si vous voulez, notre expérience depuis 4 mois et demi sur ce dossier nous incite à la plus grande des prudences. Parce que au mois de décembre dernier, il faut se souvenir, une amnistie avait été prévue pour un certain nombre de prisonniers. On nous avait annoncé la possibilité que Boualem Sansal fasse partie de cette amnistie. Ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, certes, il y a eu des signaux depuis quelques jours qui sont plutôt favorables. Mais je dis, il faut rester extrêmement précautionneux et tout dépendra en effet de la capacité à désaccélérer d'une certaine manière la crise entre la France et l'Algérie.
Arnaud Benedetti, président du comité de soutien à Boualem Sansal, il répondait à Adrien Toffolé. Comment aider l'Ukraine à se protéger de la Russie après un hypothétique cessez-le-feu? C'était l'enjeu du sommet de Paris qui a réuni aujourd'hui à l'Élysée une trentaine de pays, la fameuse coalition des volontaires défendue par Emmanuel Macron, avec une première réponse inspirée d'une proposition franco-britannique, la création d'une force de réassurance qui serait déployée sur le territoire ukrainien. Bonsoir Virginie Pironon.
Bonsoir Stanislas.
Selon Emmanuel Macron, plusieurs pays européens sont prêts à participer à cette force de réassurance.
Oui, faute d'unanimité entre les pays sur la question, Emmanuel Macron parle de quelques États membres. Ces forces de réassurance seraient déployées, selon le président français, je cite, « dans certains endroits stratégiques pré-identifiés avec les Ukrainiens ». Mais ce ne seraient pas des forces de maintien de la paix, elles n'auraient pas vocation à se substituer à l'armée ukrainienne, encore moins à être présentes sur la ligne de front. Pour le chef de l'État, il s'agit de montrer, je cite, « un soutien dans la durée à l'Ukraine, ainsi qu'un caractère dissuasif vis-à-vis de la Russie ». Autre annonce faite aujourd'hui par le chef de l'État, les alliés vont accélérer le versement de prêts pour renforcer l'armée ukrainienne. Et concernant les sanctions contre la Russie, le moment n'est pas à leur lever. Pas avant que la paix, dit Emmanuel Macron, ne soit clairement établie. Enfin, précise le président français, nous n'allons laisser passer aucun des récits ou contre-vérités portés par la Russie. Le chef de l'État qui s'interroge, y a-t-il des négociations de paix? Les discussions de ce début de semaine en Arabie Saoudite ont abouti à trois communiqués distincts qui disent trois choses différentes. Emmanuel Macron met en garde contre le projet de la Russie qui, selon lui, est de faire semblant d'ouvrir des négociations pour décourager l'adversaire et intensifier ses attaques.
Virginie Pironon, merci. Volodymyr Zelensky, présent à Paris, a-t-il été convaincu par les engagements de ses alliés européens? Beaucoup de questions et peu de réponses, regrette le président ukrainien qui tenait tout à l'heure une conférence de presse après le sommet. Volodymyr Zelensky qui a aussi évoqué le désengagement des États-Unis de Donald Trump.
Incontestablement, l'Amérique est importante. Les décisions que l'Amérique peut prendre aujourd'hui peuvent réellement avoir un impact sur la fin de cette guerre, en tout cas pour inciter Poutine à vouloir finir la guerre. Car aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est à séparer l'Europe et les États-Unis. C'est son désir et toute la machine de Kremlin travaille là-dessus et ce n'est pas la première année que ça dure à séparer l'Europe, à affaiblir l'Union européenne, à affaiblir les États-Unis. Nous en avons besoin que les États-Unis, à l'égard de la Russie, soient plus forts. Mais pour cela, il faut travailler avec la Maison-Blanche.
Volodymyr Zelensky, propos recueillis par Isabelle Labéry. Donald Trump a ouvert hier soir un nouveau front dans sa guerre commerciale. Le président américain qui va surtaxer à 25% les importations automobiles, en l'occurrence toutes les voitures produites en dehors des États-Unis. Une catastrophe pour les constructeurs allemands très présents sur le marché américain. Un coup dur aussi pour le Mexique, premier partenaire commercial des États-Unis pour l'industrie automobile. Marine Lebeg nous appelle de Mexico.
Une annonce qui fait encore une fois trembler le Mexique. Le pays envoie près de 80% de sa production automobile aux États-Unis. Ces droits de douane feraient s'écrouler tout un secteur qui représente 13% du PIB mexicain. Claudia Sheinbaum le sait, elle a assuré ce matin pendant sa conférence de presse qu'elle défendrait coûte que coûte les entreprises de l'industrie automobile qui emploient près de 900 000 personnes, tout en gardant une bonne relation avec les États-Unis. Pour ce faire, la présidente mexicaine compte bien poursuivre sa stratégie gagnante, garder la tête froide face à Donald Trump, une technique qui a fonctionné jusqu'à présent. Après négociation, le président américain a repoussé par deux fois l'application des droits de douane qu'il avait promis sur tous les produits mexicains. Reste à voir donc si cette fois-ci encore, Claudia Sheinbaum saura retarder l'échéance. La présidente a promis de donner une réponse commune à tous les droits de douane le 3 avril prochain, lendemain de la date à laquelle ils doivent entrer en vigueur.
Marine Lebeg, correspondante au Mexique. Le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de Gérard Depardieu, jugé pour agression sexuelle sur deux femmes. Une peine assortie d'une période probatoire de 3 ans et d'une amende de 20 000 euros. L'accusation a aussi demandé contre l'acteur une obligation de soins psychologiques et l'inscription de la peine au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. On retrouve au tribunal correctionnel de Paris Julie Paco, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le procureur de la République a donc livré ses réquisitions au terme d'une dernière journée d'audience, à l'image de ce procès, Julie, sous tension et outrancier.
Et on peut être un excellent acteur, cela n'a pas grand-chose à faire avec les infractions qu'on peut commettre, entame le procureur. Et si Gérard Depardieu, par son statut monumental dans le cinéma, a un devoir d'exemplarité, il doit être jugé comme n'importe quel justiciable, injusticiable, qui a changé de version au cours de la procédure, rappelle le représentant du ministère public, qui demande donc au tribunal de déclarer l'acteur coupable d'agression sexuelle, avec une peine qui prenne aussi en compte son absence totale de remise en question, appuie-t-il. Sans effet de manche, le procureur a aussi déploré la stratégie de saturation pratiquée par la défense tout au long de l'audience, visant sans le nommer maître Jérémy Assous, selon qui le ministère public n'a pas eu le courage de requérir la relaxe face à la pression médiatique.
J'ai assisté à du vent, un grand courant d'air, des grandes généralités, aucune précision et toujours cette phrase de « il faut croire les personnes qui se plaignent, puisque si elles se plaignent, c'est qu'il s'est passé quelque chose », avec toujours cette question. Pourquoi mentirait-elle? C'est plus de la justice, c'est de la psychologie, ou ça relèverait plutôt pour certaines de la psychiatrie.
Au contraire, ce réquisitoire fait la démonstration de la culpabilité de Monsieur Depardieu, estiment les deux avocates des parties civiles, dont maître Claude Vincent qui a répondu aux attaques de la défense.
Croire les victimes, c'est quelque chose de politique. Et effectivement, c'est pas le travail des juridictions, et c'est pas ce que nous, en tant qu'avocates de parties civiles, on demande aux juridictions. Et c'est évidemment pas sur la base d'une croyance que le ministère public a envoyer Gérard Depardieu devant le tribunal correctionnel de Paris. Donc il faut bien que vous ayez en tête qu'il ne s'agit pas de croire ces femmes. Il y a un dossier pénal avec des éléments probatoires.
Maître Claude Vincent, qui dans sa plaidoirie ce matin a dénoncé l'apologie du sexisme faite dans cette salle d'audience tout au long de la semaine, où un agresseur a été défendu par un agresseur, estime-t-elle.
Merci Julie Paco, en direct du nouveau palais de justice de Paris avec les moyens techniques de Selim Guéribi. Le jugement va être mis en délibéré, il sera rendu à une date ultérieure. Autre réquisition très attendue, cette fois dans le procès de Nicolas Sarkozy, elles viennent de tomber. Le parquet national financier demande 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende à l'encontre de l'ancien président, jugé pour l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne de 2007 sur le réseau X. Nicolas Sarkozy dénonce, je cite, « l'outrance de la peine réclamée ». Nous y reviendrons à 19h. C'est le Figaro qui l'annonce et l'information vient d'être confirmée par l'AFP, l'agence France Presse. Alexis Kohler s'en va. Le secrétaire général de l'Élysée quitte ses fonctions à la mi-avril. Il pourrait rejoindre le privé. On n'en sait pas plus pour le moment. Alexis Kohler était le fidèle bras droit d'Emmanuel Macron depuis 10 ans. Il est arrivé à l'Élysée avec son mentor en 2017 et il emporte avec lui une partie du macronisme, Rosalie Lafarge.
Entre eux, c'est fusionnel, résume un ancien ministre. Alexis Kohler est l'un des rares à pouvoir traduire la pensée présidentielle, souligne un proche du chef de l'État. C'est son deuxième cerveau, ajoute encore un élu Renaissance. Directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy, le haut fonctionnaire est devenu secrétaire général de l'Élysée dès 2017. Il a depuis vu passer près de 160 ministres et premiers ministres.
Pour beaucoup de gens, c'est l'homme du perron, celui qui annonce le gouvernement sur le perron de l'Élysée.
Mais c'est loin d'être son seul rôle, rappelle Vincent Martini, professeur de sciences politiques à l'université de Nice Côte d'Azur et auteur du documentaire L'homme du président, qui donne la parole à 7 prédécesseurs d'Alexis Kohler.
C'est le plus proche collaborateur du président de la République. C'est quelqu'un qui a accès au président tout le temps. C'est celui avec qui le président dialogue en permanence. Celui qui est censé tout savoir, être au courant de tout et participer à toutes les décisions, comme disait le général de Gaulle. Donc c'est un homme qui, par essence, est un personnage central dans la décision présidentielle. Et Alexis Kohler l'est encore plus que les autres probablement, parce que plus un président exerce son pouvoir de manière hyper présidentielle, plus le secrétaire général a lui aussi de l'influence.
Une influence dans l'ombre et dans la durée, ce qui a pu rendre le secrétaire général redoutable et redouté. Ce n'est pas plus mal qu'il s'en aille, souffle d'ailleurs un macroniste convaincu qu'Alexis Kohler est l'un des responsables de l'isolement du chef de l'État. Mais partir quand le bateau coule, ce n'est pas très courageux, relève un soutien du président, curieux de voir la capacité du successeur d'Alexis Kohler à relancer ou non le difficile deuxième et dernier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Alexis Kohler, par ailleurs, mis en examen pour prise prise illégale d'intérêt depuis 2022, et cela pour avoir participé comme haut fonctionnaire de 2009 à 2016 à plusieurs décisions relatives à l'armateur MSC dirigé par les cousins de sa mère. Pour le remplacer au poste de secrétaire général de l'Élysée, le Figaro avance le nom du haut fonctionnaire Emmanuel Moulin, ancien directeur de cabinet de Gabriel Attal lorsque celui-ci était Premier ministre. C'est le point d'orgue de la visite de Jordan Bardella en Israël, une première pour l'extrême droite française depuis la création de l'État hébreu en 1948. Jordan Bardella, invité par un ministre du gouvernement de Benjamin Netanyahou, Amirai Shikli en charge de la diaspora, également présente l'eurodéputé Marion Maréchal. Le président du Rassemblement national est intervenu tout à l'heure à Jérusalem lors d'une conférence internationale sur l'antisémitisme et il n'a pas hésité à établir un lien entre ce fléau et le phénomène migratoire. On retrouve à Jérusalem Élodie Forêt, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Élodie, le symbole est fort. Jusqu'ici, l'État israélien avait toujours refusé de nouer des relations officielles avec le RN.
Oui, historique, voilà comment Dov Maimon, chercheur israélien, qualifie ce moment. Un tournant politique dicté avant tout, selon lui, par les intérêts d'Israël.
On a besoin de savoir que dans l'Union européenne, on a des gens comme Orban ou demain Bardella qui vont être des gens qui vont protéger Israël. Les intérêts d'État d'Israël, c'est de s'allier avec les gens qui vont être capables de voter pour Israël.
Sur scène, Jordan Bardella lui fait un discours assez attendu, évoque d'abord la montée de l'antisémitisme en France et attaque la France insoumise.
Depuis le 7 octobre, particulièrement en France, nous assistons à une lune de miel entre l'islamisme et la gauche extrême. L'un fournit les fanatiques, l'autre institutionnalise le mal, fournit l'excuse de victimisation et l'apparence de bonne conscience.
Dans la salle des applaudissements, souvent un même rejet de la gauche, mais quelques doutes parfois sur la sincérité du président du RN. Je ne sais pas s'il met ou non un masque, soupire Marilyn Smadja, bénévole au ministère des Affaires étrangères.
Si on ne lutte pas contre le racisme, qu'on ne comprend pas qu'il ne faut pas faire de généralité, par exemple, sur toute une population, un jour ce sera l'islam et le lendemain ce sera peut-être le judaïsme. Donc il faut se poser des vraies questions. Moi je suis là surtout pour poser des questions et pour me poser aussi des questions à ce niveau-là.
Marilyn, un peu rassurée par les derniers mots de Jordan Bardella, sa promesse de dénoncer l'antisémitisme d'où qu'il vienne, y compris de l'extrême droite. Une conférence conclue à l'instant par le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a remercié sans les nommer tous les invités pour leur soutien à Israël, quel que soit, dit-il, leur bord politique.
Élodie Forêt à Jérusalem avec Benjamin Thuot pour les moyens techniques en Israël. 3 ans après le scandale Orpea révélé par le journaliste Victor Castanet, les conclusions du plan de contrôle des EHPAD ont été dévoilées ce matin par la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. 7500 établissements qui accueillent des personnes âgées ont été contrôlés dans toute la France. Flore Caron, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelles données apporte ce plan sur la situation des établissements ?
Sur les presque 7500 établissements contrôlés, 11% ont été considérés en situation dégradée, avec une proportion un peu plus importante au sein des EHPAD privés commerciaux que des EHPAD publics. Au total, 55 sanctions graves ont été prises, fermeture, suspension ou mise sous administration provisoire. 40 cas graves ont été signalés au procureur. Néanmoins, la ministre Charlotte Parmentier-Lecoq se veut rassurante.
Ce que je veux redire, c'est que dans la très grande majorité, les EHPAD accompagnent bien nos aînés, les professionnels sont vraiment dévoués, engagés pour bien accompagner nos aînés.
Un tiers seulement des inspections ont été menées dans les établissements, donc sur site. Pour les autres, c'est un contrôle sur document, car le délai était serré, justifie le gouvernement. L'objectif était de réagir vite après la sortie de l'enquête du journaliste Victor Castanet. Il révélait en janvier 2022 des malversations et des maltraitances au sein des établissements du groupe Orpea.
On a voulu s'assurer qu'il n'y ait pas d'autre Orpea, il n'y a pas d'autre Orpea aujourd'hui. Donc ça, c'était un élément important. Et je veux redire aussi à nos concitoyens que l'argent qu'Orpea a capté de façon indue a été récupéré et est revenu dans les caisses maintenant de la Caisse nationale, la Caisse de solidarité pour l'autonomie.
C'est donc 55 millions d'euros qui ont été récupérés. Le gouvernement annonce aussi le développement d'un système d'information qui permettra d'alerter plus facilement en cas de risque de maltraitance. Il sera disponible en janvier 2026. Mais ce plan de contrôle ne satisfait pas Laurent Garcia, président de l'association L'Observatoire du Grand Âge.
non seulement ces contrôles sont des contrôles papier faits par les agences régionales de santé, qui sont nos autorités de tutelle et qui financent notamment le nombre de soignants dans les établissements. Donc cette autorité de contrôle ne va pas nous dire que nous manquons de soignants dans les EHPAD. Quand une soignante a 10 toilettes à faire le matin entre 9h et midi, elle est forcément maltraitante parce qu'il faut se presser. Voilà, il faut une autorité administrative indépendante pour contrôler les EHPAD.
Le gouvernement a aussi annoncé étendre ce plan de contrôle aux établissements pour les personnes en situation de handicap. 500 devraient être contrôlés d'ici la fin de l'année. Mais on ne sait pas encore tout à fait, on ne connaît pas tout à fait encore les détails de la méthodologie qui sera appliquée.
Flore Caron, merci pour ces explications. Un mot du temps, demain, des pluies arriveront par la Bretagne et la Normandie avant de s'étendre à tout le nord-ouest jusqu'à la frontière belge. Ailleurs, un ciel changeant entre nuages et éclaircies. Demain matin, il fera entre 2 et 12 degrés du nord au sud. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 12 et 16 degrés en général, jusqu'à 22 degrés du côté de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia à la technique, François Saint-Jour.